médecin, la pharmacie, la prennent du monde chronologiquement,
la fin des temps, la parousie et la fin du monde. D'accord. D'accord, je note. Très bien. Et toi, c'était quoi?
Moi, c'était au sujet d'une lecture. C'était samedi dernier sur la page SMA. Où j'avais noté que. Je ne me souviens pas des termes précis, mais. En gros, ça voulait dire. Le prophète, c'était celui qui croit en moi aura la vie éternelle. À l'origine, c'était ça. Et même lorsqu'on voit un poisson du lac, on n'interprète pas. Et pareil avec la mort du réservoir. Alors est-ce qu'il faut le prendre pour sa propre particularité? Parce que disons que actuellement, moi personnellement, j'ai pas la force quoi.
Ça va.
Pour voir un poisson violent,
Dans quel cas il faut l'interpréter de manière symbolique, dans quel cas il faut l'interpréter. Tu vois, c'est le problème, par exemple, d'une secte. Une secte, c'est très facile, elle a des textes sacrés. Prends par exemple les témoins de Jéhovah. Bon, les témoins de Jéhovah vont prendre la Bible et ils vont prendre l'interprétation de tous les passages uniquement sur le plan littéral. Tu vois, c'est le propre d'une secte. C'est-à-dire que je mets le point de vue donc divin, le point de vue de Dieu, Dieu donne sa révélation, et je mets la révélation, je la prends pour moi, je l'interprète d'une manière uniforme. Je demande à tous les adeptes de la secte de ne pas réfléchir sur ce que Dieu donne dans sa révélation. Je dois apprendre la révélation matériellement par cœur, et je ne dois pas réfléchir. Je ne dois pas réfléchir, je dois gober tout, et c'est tout. Et surtout, ne pas réfléchir. Or, Dieu, ça, c'est comme ça qu'on fait une secte. Parce que si tu ne dois pas réfléchir, tu dois faire uniquement ce que disent les maîtres de la secte. Et donc, tu dois obéir à des bons hommes qui ont du coup sur toi un énorme pouvoir. Et en réalité, c'est un pouvoir politique. Et c'est pour ça que ces sectes aspirent à prendre des régions entières, des villes entières, des nations entières, pour pouvoir avoir un pouvoir en même temps religieux et politique sur les gens. Le but, c'est évidemment le pouvoir politique. Et il est évident qu'une vraie révélation, une révélation qui vient du bon Dieu, normalement doit être respectée. Et la manière de le respecter, c'est faire que cette révélation soit au service des hommes et au service de la finalité des hommes. Quelle est la finalité des hommes? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pourquoi as-tu été créé par Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Dieu a créé chacun d'entre nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi? Dans quelle fin? Quel est la but de la création? Si vous vous posez quand même cette question, qui est toute simple, Dieu m'a créé pour le contempler, pour le comprendre, pour le connaître, pour l'aimer, pour le louer, pour le servir. Donc si Dieu se révèle à moi à travers une révélation, et qu'on me dit « tu ne dois pas comprendre », c'est donc que cette révélation est détournée de l'intention de Dieu, puisque au contraire Dieu se révèle à moi à travers la révélation pour que je puisse comprendre ce qu'il dit. Et du coup, contempler Dieu, si je ne le contemple pas, je ne pourrais pas l'aimer. Alors, je pourrais faire respecter des règles imposées par des gens qui ont sécularisé, matérialisé la révélation pour que je sois à leur pouvoir et à leur merci. Et si je dégage des règles qu'ils ont imposées, eh bien, je suis mis à mort. Et je suis dans la menace. Et je ne peux pas sortir de cette religion, je ne peux pas sortir de cette secte, parce que sinon, on me menace de mort.
ou on me menace de je ne sais pas quoi, hein, ou de l'enfer. Comme si Dieu allait menacer quelqu'un de l'enfer parce qu'il le cherche. Tu vois? Alors c'est pour ça que c'est si important de comprendre que quand Dieu révèle sa vérité, eh bien sa vérité va être proposée à l'intelligence, au cœur, mais aussi à l'intelligence de l'homme, de chaque être humain, de manière qu'il puisse réfléchir, justement. Parce que s'il ne faut pas réfléchir, il n'y a pas besoin qu'il fasse de révélation. S'il donne sa révélation, c'est précisément parce qu'il adapte sa révélation à une compréhension. Mais simplement, à ce moment-là, il envoie précisément une grâce particulière avec sa révélation pour la comprendre. Donc on va regarder ça. Tu as très bien fait de poser la question, puisque c'est le moyen de rentrer dans la foi en Dieu sans que ce soit sectaire. Tu peux rentrer dans la foi en Dieu en faisant que ce soit sectaire. À ce moment-là, tu sors de la foi. Et tu peux rentrer dans la foi en Dieu, en fait, c'est l'homme tout entier qui s'épanouit. C'est pas l'homme qui est écrasé, mais c'est l'homme qui ressuscite dans la connaissance de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire que son épanouissement peut éclater. Mais j'y reviens, je vais aller de suite sur la question préliminaire, et puis après je reviens là-dessus. Mais n'hésitez pas à poser des questions très simples, parce que ces questions compliquées, vous savez, ça vous fait pas avancer. Alors, ça ne fait pas avancer, quand Dieu aime les questions très simples. Voilà. Alors, oui, la fin des temps. Alors, quelle différence y a-t-il entre la fin des temps, la parousie et la fin du monde? Alors, il n'y a pas eu de concile qui ait défini explicitement ces choses-là. Mais il y a quand même une théologie, une tradition apostolique qui indique un certain nombre de choses. Donc, je ne dis pas que c'est deux fois ce que je veux dire, mais je dis comment moi, personnellement, après un certain nombre d'années de théologie, je distingue ces trois choses-là. Une chose est absolument sûre. Alors là, tu dois le croire. Si tu as la foi chrétienne, si tu as la foi même d'Abraham, à partir du moment où tu as la foi d'Abraham, tu sais que Dieu a donné sa révélation à Abraham, et particulièrement, d'une manière plus particulière encore, sous forme écrite, à Moïse. C'est l'unique révélation que Dieu ait donnée à l'humanité. Il n'y a pas d'autre révélation. Pardon ? Mais l'étape de la loi, ce n'est pas seulement l'étape de la loi. J'ai eu aussi tout le Pentateuque, les 153 chapitres du Pentateuque, les 153 sourates, n'est-ce pas, du Pentateuque, pour prendre les termes de... Le terme sourate est un terme juif, hein, c'est pas un terme arabe. Hein. On emploie sourate pour le Coran, mais vous savez bien que sourate, c'est juif, ça veut dire c'est section, quoi. C'est pas du tout un terme arabe, alors on va l'employer. Je veux avoir un mot, monsieur, j'avais l'intention, parce que je suis en train de lire ça en ce moment, je suis en train de faire l'exégèse du Coran en ce moment. Hein. Je suis en train de faire l'exégèse du Coran, des recherches tout à fait extraordinaires sur le Coran. Sur les origines du Coran. Bon, je vous dis, ce surat, c'est juif. C'est comme. Les juifs avaient décomposé le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, en 553 surat. Bon, pourquoi est-ce que tu sais, je ne sais rien. Oui, parce que ça a été donné à Moïse. Ça a été donné à Moïse, le cri. Donné à Moïse, ça va? Mais la révélation était donnée avant à Abraham, pour ainsi dire, le père des croyants. Tu comprends? Et la révélation a été donnée à Abraham, déjà elle avait déjà été donnée à Adam d'après l'écriture, comme pour dire que l'humanité, dans le péché, dans la pénitence, dans la souffrance à cause du péché et des puissances des ténèbres, devait écouter Dieu. pour se préparer par l'intelligence, par le cœur, à recevoir le Messie. Ça va? Donc toute la révélation écrite, toute la révélation orale, c'est pour recevoir un sauveur. Toute la Torah, c'est ça. Et encore aujourd'hui, les rabbins sont tout à fait d'accord de dire que toute la révélation d'Abraham, de Moïse, c'est pour préparer un Messie, un Rédempteur, Sauveur. Et puis donc, pour nous, on sait bien, parce qu'on accepte, on essaye de ne pas trop fermer les yeux, puisqu'on sait que l'Écriture précisait la date et le lieu de la naissance. Et il se trouve que c'est la date et le lieu de la naissance de Jésus. Oh. Quand même, c'est dans l'Écriture en toutes lettres, quoi. Alors, on va quand même pas fermer les yeux là-dessus, tu comprends? Bon, là, pour nous, donc...
La date, c'est le lieu, c'était Bethléem, mais la
oui.
date, c'était...
La date, c'est...
Non,
on le lira, si vous voulez, c'est l'archange Gabriel apparaît au prophète Daniel. Le prophète Daniel priait, on le voit dans l'écriture qu'il priait beaucoup, et pour savoir, il ne comprenait pas quand est-ce que viendrait le Messie. Alors, très bien. Alors là, l'ange Gabriel lui dit, il lui donne tout un cycle prophétique qui fait 12-13 lignes, et puis parlant de septénaires, de semaines, d'années, de 60 semaines, d'années, etc. Là, à partir du moment où une parole particulière sera prononcée, compte tant de semaines, d'années, etc. Or la parole que l'ange Gabriel annonce comme étant la date à partir de laquelle il faudra compter est la suivante, quand cette parole sera prononcée, rebâtissez les murs de Jérusalem et reconstruisez son temple, alors compte tant de semaines, d'années. Alors apparaîtra un Messie, puis après la mort, puis après, c'est pas mal, il y a toute une prophétie. Donc, or, cette parole a été prononcée par le roi Darius au moment après la déportation à Babylone, donc roi de Babylone, pour renvoyer les Juifs de Babylone à Jérusalem pour qu'ils reconstruisent le mur de Jérusalem. Et donc, il fallait compter 436 ans plus tard. Et 436 ans plus tard, ça tombe exactement moins 5 avant Jésus-Christ. Et tu sais très bien que Jésus n'est pas né en l'an 0, mais en l'an moins 5 avant Jésus-Christ. Et donc, ça s'est passé à Bethléem, ainsi qu'il était prophétisé dans le prophète Malachie, sauf erreur. Bon. Donc, il n'y a absolument aucun doute possible. C'est, alors là, pour toutes les religions révélées, je veux dire... Pour l'islam, pour le christianisme et pour le judaïsme, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui refuserait ça, c'est quelqu'un qui refuserait le principe même de la révélation. Ou alors c'est quelqu'un qui dirait, ah, il y a une partie de la révélation que j'accepte pas, donc je prends uniquement ce qui m'intéresse et le reste, c'est pas du bon Dieu. Ah, c'est embêtant. Alors si tu prends des paires de ciseaux en disant « Seigneur, ferme ta gueule là-dessus, et moi je te fais ce que tu penses, hein. » À ce moment-là, c'est pas l'amour de Dieu, tu vois. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, tu dis « D'accord, comme si on t'avait la tête coupée, quoi. » Alors, voilà, faut pas exagérer. Bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Par exemple, vous lirez dans le Coran que, pour prendre par exemple le Coran, le texte dit explicitement qu'il y a eu une révélation écrite. Le Coran, quoi, c'est un terme juif aussi. Hein. Et quand on dit le livre dans le Coran, le Coran, c'est le livre qu'on doit réciter. C'est un terme juif. Et il désigne évidemment la Torah de Moïse. À un autre moment, on va parler du Coran arabe. Mais c'est précisé dans le texte du Coran quand il est arabe. Quand le Coran, le mot arabe n'est pas précisé, il révèle toujours celui du béni. Et le béni, c'est Moïse. Il désigne Moïse dans le Coran. Eh bien, le texte écrit du Coran, d'après le Coran, le texte donc donné à Moïse et à Abraham est infaillible. C'est celui de Dieu. Et ce texte-là, qui est infaillible d'après le Coran, comme d'après le christianisme, comme d'après le judaïsme, eh bien, il nous montre que Dieu prépare son peuple par la révélation à se révéler lui-même à travers un Messie, un Rédempteur, celui qui doit juger les vivants et les morts en les sauvant. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, le Coran, c'est indirect. C'est indirect, parce que le Coran dit les détenteurs du livre. Les détenteurs du livre, c'est les juifs. Tu dois respecter les détenteurs du livre. Le livre, c'est le livre donné à Moïse. Ça va ? Bon, eh bien, à partir du moment où cette révélation qui prépare les hommes à recevoir, non plus cette révélation de manière prophétique, mais à travers la personne du Rédempteur, quand le Rédempteur s'est incarné, quand le Messie s'est présenté, alors à ce moment-là, ça y est, c'est la fin des temps. La fin des temps, c'est à partir du moment où Jésus sauve les hommes. Or, il les sauve à partir du moment où il livre sa vie pour le salut du monde. Et donc, c'est dans l'instant de la résurrection que démarre, si je puis dire, la fin des temps. Ça veut dire, quand on dit la fin des temps, ça désigne la fin des temps de la prophétie. Ce n'est plus les temps de la prophétie, puisque Jésus est là. Ça va ? Voilà ce que c'est la fin des temps. Donc ça fait 2000 ans que nous sommes dans la fin des temps. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un nouveau prophète qui arrive pour annoncer un autre Messie, tu peux être sûr qu'il est en dehors de la révélation
c'est
de
Dieu.
À ce moment-là, ce sera nécessairement quelqu'un qui va annoncer un autre sauveur. Et c'est pour ça que tu tombes dans les maîtres cosmiques. Ce sera des maîtres cosmiques. Et qui ne promettront qu'un paradis terrestre, un paradis sensible, un paradis où tu auras du bonheur sensible, un bonheur physique, un bonheur, pas du tout le bonheur divin. C'est une des manières de reconnaître d'ailleurs ces espèces de faux messies. Très bien. Ok, donc la fin des temps, c'est clair, c'est à partir du moment où Jésus ressuscité, si on s'approche de lui, nous donne réellement la grâce sanctifiante. Voilà. Qui veut, tout le monde ne le veut pas, mais qui veut, peut, à partir de l'an 30 après Jésus-Christ, peut vivre réellement de l'éternité. Donc, il est dans la fin des temps. Parce que dès que tu vis de la grâce sanctifiante, tu n'es plus dans le temps. Tu vis déjà de l'éternité. C'est la rencontre du temps et de l'éternité, hein. Dieu s'est fait homme. Et donc, quand tu te nourris du Christ, tu rentres, tu fais pénétrer le temps dans l'éternité et l'éternité dans le temps. C'est pas compliqué, ça. Fin des temps. Bon, maintenant, la parousie. Alors, la parousie, je dirais ceci. La parousie est un terme, technique, si je puis dire, c'est que qui indique que. Qui indique un événement bien particulier. C'est qu'évidemment, à partir du moment où Jésus dispose ainsi de ce pouvoir de sauver tous les êtres humains, il veut le faire non pas en vertu d'un pouvoir, mais en vertu d'un sacerdoce d'amour. Et comme il veut le faire en vertu d'un sacerdoce d'amour, il réclame la complémentarité. Et autrement dit, il faut le mystère de l'époux et de l'époux. Quelle est l'épouse de Jésus? L'épouse de Jésus, c'est nous, c'est l'humanité. L'humanité doit coopérer dans une complémentarité pour précisément la gloire de Dieu. Et donc l'humanité doit non seulement adorer son Créateur, mais en plus glorifier son Dieu. C'est beau d'aimer Dieu, mais cela ne suffit plus avec Jésus. Avec Jésus, il faut le glorifier. Il faut avoir une fécondité non seulement humaine, où j'apporte la création au bon Dieu, mais il faut aussi que j'apporte la divinité à la création. Et ceci, c'est justement le rôle de la complémentarité d'une humanité qui vit de la grâce sanctifiante, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est l'époux. Et le peuple de ceux qui vivent de la grâce sanctifiante, c'est l'épouse. Ça va ? Bon. Alors, à ce moment-là, il y a une coopération qui se fait. Et celle-ci va durer pendant le temps de l'Église. Donc on passe de la fin des temps à l'intérieur de la fin des temps. La fin des temps, ça s'appelle le temps de l'Église. Et ce temps de l'Église va trouver comme une espèce de... pas de terme, c'est pas ça. Comme une espèce d'accomplissement, une espèce de point de nœud, plérôme, si, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, très bien, qu'on va appeler la parole aussi. À un moment, l'Église ne peut plus donner. Elle ne peut pas faire plus. Exactement comme Jésus se trouve en face à Jérusalem et il pleure. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas forcer la liberté. Et donc, il pleure. Et à un moment où l'Église, l'humanité, dans cette coopération avec Jésus, le don total pour pouvoir sauver, j'allais dire, l'humanité et faire que la divinisation de l'homme et de l'humanité et de la création se fasse, à un moment, l'Église ne peut plus rien faire. Je crois que c'est ça, moi, la parousie. La parousie, c'est l'Église arrive dans son, à son heure. Il y a un moment où la complémentarité de Jésus, du corps mystique, au fond, du Christ, arrive à son heure. L'heure du Christ a sonné au Golgotha et l'heure de l'Église a sonné à la parousie. Et la parousie, donc, à partir du moment où effectivement, il y a à ce moment-là un immense soubresaut qui se fait, et le Christ en parle longuement dans l'Évangile, dans les Évangiles, il y a des versets considérables là-dessus, sur les saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, etc., les apôtres ont récapitulé tous les signes qui correspondent à la parousie. Bon, notamment, vous vous rappelez bien, ça culmine dans le fameux signe de la croix glorieuse qui apparaîtra donc dans le ciel, que tous verront, qui apparaîtra d'un clin d'œil, de l'Orient à l'Occident, et ça correspond... C'est ce signe que tous verront, Jésus en parle à un moment. Alors, se dressera le signe du Fils de l'homme dans les cieux. Et de l'Orient à l'Occident, tous le verront. C'est la parousie, ça. C'est cette espèce d'extraordinaire soubresaut final. C'est l'heure de l'Église. Et ça correspond un petit peu, si tu veux, à ce coup de trompette dont Jésus parle dans la parabole des 10 vierges sages et des 10 vierges folles. Mais il y a un grand coup de trompette, tout le monde s'est endormi, épuisé. C'est vrai, il y a une espèce d'épuisement qui correspond à l'heure, analogiquement, à l'heure du sommeil de Jésus sur la croix. Voilà. Et il y a cette espèce de coup de trompette, alors toutes ces vierges se réveillent. Voilà, ça c'est la parousie. Et puis ils disent, ah, voilà l'époux qui vient. Donc c'est la grande annonce, si tu veux, du retour du Christ. Mais ce n'est pas encore la fin. Jésus le dit explicitement, tous ces signes de la parousie, il dit explicitement, ce ne sera pas encore la fin. Il le dit explicitement. Donc ne dites pas, ça y est, il va y avoir la parousie, on y est, il n'y a pas de doute, tout le montre que tous les phénomènes montrent que l'Antichrist est là, tout ça. Donc c'est la fin du monde bientôt. Non, pas du tout. La parousie, d'accord, ok, mais pas la fin du monde.
Les signes dont vous parlez, qui sont les signes qui définissent la parousie. Saint-Thomas, c'est les fameux 12 signes dont
on parle. Oui, les 12 signes de Saint-Thomas, oui.
Le
traité des fins dernières de Saint-Thomas.
Si on veut connaître les 12 signes, il faut lire ça.
Oui, dans Saint Thomas récapitule les 12 signes qui sont dans l'Écriture.
Et la parousie commence au premier,
Le point d'orgue...
Le 12e signe.
Le point d'orgue, c'est le 10e signe dont je vous parle, donc ce signe que tous verront, tu vois.
On peut dire que globalement la parousie, c'est le premier ou le 12e signe.
Donc, grosso modo, la parousie, c'est l'heure de l'Église, quoi. C'est l'heure où vraiment l'Église est un avec... doit rentrer de manière dans son holocauste final, tu vois.
D'accord. Mais les 12 signes par rapport à la parousie, c'est quoi?
C'est préambule, oui. C'est tout un ensemble de préambulaires.
D'accord.
Ouais, c'est un peu, si tu veux, comme le chemin de croix par rapport au Golgotha.
D'accord.
Tu vois. Oui, mais ça, ce ne sera pas encore la fin. Alors ça, c'est encore autre chose. Donc ça, il va y avoir des guerres, des rebelles comme ça. Ça, ce sera tout le temps. Ce n'est pas parce que je serai ressuscité qu'il n'y aura plus de guerre. Voilà ce qu'il veut dire.
Oui, il y aura... justement, ce sera au moment où il n'y aura plus de guerre. Et quand il y aura des guerres, c'est en train de s'inquiéter. Mmh. Mais les signes, ce sera en se restant nation contre nation, royaume contre royaume. Et c'est là qu'on va se...
Non, c'est plutôt tendancieux de dire ça, je dirais moi. C'est pas très clair que... Il dit pas que ce sera un temps de paix, il dit pas non plus que ce sera un temps de guerre. Il dit qu'il y en aura des guerres jusque-là. Hein? Il dit pas explicitement que la parousie sera un temps de paix. J'ai jamais vu ça, moi, en tout cas. Si tu me trouves le passage, tu m'intéresses, mais... Ah bah oui, bah, entre la résurrection de Jésus et la parousie, oui. Ah oui, ah oui. Et donc tout se termine par cette grande guerre eschatologique, et cette grande guerre eschatologique, ben voilà, c'est la parousie. Ça va?
Il y a une chose, il y a des tas de personnes qui vous racontent, on va dire que la parousie, c'est le retour de Christ personnellement.
Ah non, non, non.
Ça, c'est vraiment, je réponds, c'est pas vrai.
Non, 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 c'est le signe que tout se...
Oui, il y a des gens qui ne veulent pas sortir de là. Et que...
Non, non, mais alors, ils font...
À la lumière de ce que vous aviez déjà dit, j'avais parfaitement compris.
Non, non, mais la parousie. Alors, c'est possible, il est très possible qu'il y ait une très grande proximité entre la parousie et la fin du monde. Ça, on n'en sait rien, je veux dire. C'est pas précisé alors, par l'écriture. Donc, mais ce qui est précisé par l'écriture, c'est que c'est deux choses différentes.
Oui, mais bien sûr.
Bon. Du reste, on le dit en plus dans le credo. Dans notre credo qu'on dit le dimanche,
oui.
On le dit explicitement. On dit que la parousie, c'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est quoi? C'est quand? C'est fini. Il y a, donc, tu as la fin des temps prophétiques, la fin du temps de l'Église, la parousie, et puis la fin du monde. La fin du temps de l'univers, la fin du temps cosmique. Et la fin du temps cosmique, c'est effectivement Jésus qui revient dans sa gloire, qui juge les vivants et les morts et récapitule toutes choses, le cosmos compris, dans l'éternité glorieuse. Bon, voilà la fin du monde. Et ça, c'est évidemment, on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure de cela.
Donc quand les gens disent on ne peut savoir ni le jour ni l'heure,
c'est à propos de la fin du monde.
C'est à propos de la fin du monde.
La fin du monde.
La matière elle-même.
La fin du monde et récapitulation dans la gloire, c'est la même chose.
Voilà.
C'est
la même chose.
D'accord. Et est-ce que la matière, elle sera glorieuse?
Ben, la matière sera glorieuse dans la mesure de la capacité de glorification qu'elle porte en elle-même. Savoir
la matière de nos corps,
la matière cosmique, si tu veux, dans la mesure où elle pourra effectivement participer à l'agilité, à l'impassibilité, à la transfiguration, à la transfiguration, disons.
Les
cinq propriétés du corps glorieux, dans la mesure de chacun de ces corps-là, ils seront effectivement récapitulés dans la gloire du Christ. Du reste, c'est pas très difficile à comprendre. Tu vois, par exemple, rappelle-toi la dernière fois que tu as eu une apparition de la Vierge. Chaque fois que tu communies à Jésus dans l'Eucharistie, tu as comme une espèce de petite expérience de ce que c'est que les cinq propriétés des corps glorieux, par la médiation de la substance, justement. Tu vois, aujourd'hui, on doit passer par la médiation de la substance, tu vois, parousia, hein, vous pouvez le proposer, parousie, parousia, c'est la parousie. Alors, ousia, c'est la substance, hein, en grec. Hein. Et ça, c'est une particule ici, donc, pour exprimer, justement, j'allais dire, de traversée totale. Donc ici, l'ousia, dans l'Eucharistie, vous avez trans-ousio, c'est une trans-ousiologie, c'est une trans-ousiostation, en fait. C'est une trans-ousiostation. C'est une trans-ousiostation. C'est une trans-substantiation. Donc tu vois, tu participes, tu as une, tu vois que nous ne pourrons comprendre. Déjà, notre humanité ne peut accéder à la compréhension de la récapitulation glorieuse du cosmos, de la matière, de chaque étoile, de chaque particule de plante, de matière, tout ça. Cellules vivantes ou cellules inertes, tu vois, où c'est Dieu animé spirituellement, comme notre corps est animé spirituellement, eh bien, donc je n'y accepte que par la médiation de la foi dans la parousie. Effectivement, tu vois, là, c'est une espèce de très beau rapprochement à faire entre la fin du monde, qui te fait recevoir Jésus tel qu'il est, et le voir tel qu'il est dans son corps glorieux, avec la très sainte Trinité comme gloire, tu vois. Par la médiation d'une parousie de Jésus qui est dans son plérôme de gloire, et tu as un espèce de parallèle à faire avec l'Eucharistie, puisque dans l'Eucharistie, à part la médiation de la substance du corps, tu peux atteindre effectivement les cinq propriétés des corps glorieux qui sont notamment dans le corps du Christ et le corps de la Vierge Marie, puisque c'est les deux seuls pour lesquels on soit absolument sûr qu'ils sont dans la gloire. Ouais.
Par rapport au corps. Au corps d'une personne qui est défunte.
Oui.
Quelle est la position qu'on peut avoir, que l'Église adopte, parce que Michael disait que c'est, bon, je pense que c'est juste, que comme ce corps a vécu les sacrements, c'est vrai qu'on a un respect déjà d'avoir vécu ce corps-là. Mais en tant que matière, parce que c'est, elle n'est plus organisée, c'est une matière qui va se disperser, est-ce que par rapport au corps glorieux, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va subsister de ce corps? Est-ce qu'aussi on doit avoir un respect par rapport à ce corps vis-à-vis de. Parce que peut-être elle participera d'une certaine manière, ce corps-là, participant d'une certaine manière à la.
Ah oui, d'accord. Bon, le corps que tu as est composé de cellules vivantes. J'ai lu la dernière fois, certains d'entre vous n'étaient pas là, mais j'ai lu la dernière fois, je ne l'ai pas. Peut-être que je l'ai. Enfin, ça fait en grosso modo, notre corps a une des cellules vivantes de base. Eh bien, on a découvert tout dernièrement que la cellule vivante de base de notre corps était composée de quatre éléments. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui était là. Il y a quatre éléments de base pour nos cellules vivantes. Alors, peut-être je le retrouve, je vous le dirai après l'intermédiaire, quels sont ces quatre éléments de base de toute cellule vivante. Bon. Et par ailleurs, chacun de nous, nous sommes composés de ces cellules vivantes. La cellule vivante, donc, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, sinon c'est plus une cellule vivante, c'est une cellule inerte. Hein? Bon, eh bien, la cellule vivante avec un composé de quatre riformes, si je puis dire. Bon. Et on sait par ailleurs, pour ce qui nous concerne nous, c'est que notre corps, donc, est marqué dans un chiffre particulier, le fameux ADN, acide désoxyribonucléique. Bon. Et lorsque tu meurs, eh bien, la marque de cette qui t'est propre, qui est propre à personne d'autre, demeure dans ton cadavre, si je puis dire, comme une espèce de marque. Et, bon, bien sûr, il va se décomposer, il va être assimilé, que sais-je, par la terre, par des plantes, par. Ça va être. Mais il restera, d'après les calculs qu'ont fait un certain nombre de savants, il restera même à la fin des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'années, il restera toujours minimum 100 à 200 cellules de base portant ton chiffre, quelque part. Portant ton chiffre. Par conséquent, comme tu le vois dans le livre d'Ézéchiel à propos de la résurrection, Jésus, Dieu, ressuscite les morts à partir de quelques restes. C'est très intéressant, ça. On le voit bien dans le livre d'Ézéchiel, comment Dieu rassemble, dit, prend les ossements, et puis à partir d'un petit reste de rien du tout, il reconstitue l'ensemble du corps. Donc c'est bien ton corps qui ressuscitera, il sera reconstitué par... c'est sous ce mode-là que Ézéchiel le voit dans sa vision prophétique, si tu veux. Ça ne veut pas dire que matériellement ça sera comme ça, mais en tout cas c'est quand même très intéressant de voir que Dieu, comme il respecte toujours sa création, c'est très intéressant. Et comme il dit qu'effectivement c'est sous ce mode-là qu'à partir d'un reste qui reconstituera l'ensemble de ton corps, ça veut dire aussi, bien entendu, que pour l'ensemble de l'humanité, il revivifiera l'ensemble de l'humanité à partir d'un tout petit reste à la fin. Ça veut dire ça aussi, bien entendu. Bon, donc pour l'ensemble de l'humanité, hein, il prendra un tout petit reste. C'est très clair qu'au moment de la fin, il y aura un tout petit reste de rien du tout qui restera fidèle dans la grâce sanctifiante. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus ne nous a pas fait de secret là-dessus. Alors là, il ne nous l'a pas caché. Ah. Bon, alors donc ça veut dire quoi? Que c'est bien ton corps qui ressuscitera, mais recréé, pour ainsi dire, par Dieu. Alors, il le recréera dans sa puissance naturelle, dans ses caractéristiques naturelles. Il le recréera, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il le recréera, bon, spiritualisé. Ça va? Spiritualisé. C'est-à-dire que ici, c'est son âme et la lumière de l'âme qui informera complètement le point de vue du corps. Et il le recréera à partir de son propre corps glorieux. Il le recréera donc dans la détermination principale de son corps glorieux. Donc il y aura une reconstitution correspondant à la création. D'accord? Une reconstitution à partir de la spiritualisation qui correspond du reste à la grâce. Et une reconstitution à partir de son propre corps glorieux qui est dans l'éternité. Et donc qui est parti d'accord. Donc tu auras au fond trois recréations dans un seul instant dans la récapitulation finale. Ça marche? Et ceci à partir d'un tout petit reste. D'un tout petit reste.
Mais le reste de chaque ou le reste de...
Le reste de chacun, ce que je viens de t'expliquer. Le reste de... Je parle ici uniquement de ton corps. Il faudrait, on devrait pas...
Mais le reste, naturel.
Oui, à partir de quelques cellules...
Spirituel et le reste...
À partir de quelques cellules de ton corps. Quelques cellules vivent de ton corps. Oui.
À partir d'une cellule... une cellule, c'est matérielle. Ouais.
Moi, je ne sais pas de fois, mais moi je te dis ce que je pense. Ce qui est sûr, c'est que ton corps ressuscitera. Ce ne sera pas le corps de quelqu'un d'autre, ce sera ton corps. Ce ne sera pas le mien qui ressuscitera dans ton corps. Et ce ne sera pas, je veux dire, certains pensent, oubliant qu'il y a ces trois aspects de la glorification et de la résurrection, ou bien qu'il y a ces trois aspects parfaitement respectés, et certains pensent que ici ton corps, ce sera simplement le corps de Jésus, mais une partie, pour reconstituer ton corps. Et non, c'est pas vrai, ce sera à partir de ton corps. Parce que Dieu ne peut pas supprimer sa sagesse, ni sa volonté créatrice. Or, il a voulu te créer, et ton corps fait substantiellement partie de toi. Et il veut te sauver, toi, tout entier. Et ton corps fait substantiellement partie de toi. Et donc, il reprendra ton corps à partir du reste qu'il en trouvera. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement, c'est ce qu'on trouve récemment, point de vue scientifique, donc chacun d'entre nous, dans notre corps, si tu veux, on aura toujours, même si c'est dans quelques centaines de millions d'années, on aura encore qui passe quelque part, des cellules vivantes de notre corps, même si c'est infime, ça fait rien. Et à partir de là, vous lirez le livre d'Ézéchiel, et c'est très intéressant de voir ces corps qui se reconstituent, cet os qui se reconstitue, et puis le tissu, les nerfs, tout ça. Ben voilà, voilà. Bon, c'est ça.
Et ceux qui sont fait incinérer, frère, alors là, c'est le problème.
Mais l'incinération n'enlève pas du tout, justement.
Non, c'est pas l'ADN, ça n'enlève pas ce
truc-là. Non, non, c'est pas l'ADN, attention, là.
C'est pas l'ADN, on peut pas le... Il y en a quatre, il y en a
quatre.
Quatre éléments. Quatre éléments, c'est pas l'ADN.
Oui, parce que évidemment que le fait de brûler un corps vous enlève toutes cellules vivantes.
C'est évident.
Mais vous aurez toujours quelque part. Il faudrait que je l'ai pas gardé. Tiens, justement, je voulais vous le lire, puis j'ai oublié de l'amener. C'est cette semaine que j'ai lu ça. Comme vous le voyez, je ne vous fais pas de conférence de presse pour commenter comme d'habitude. C'est parce que j'ai oublié. Oui, 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 peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas. Oui,
le corps, en tant que partie de, il fait partie intégrante du problème de la personne humaine.
Oui.
Donc il y a cette rupture substantielle qui se passe au moment de la mort. En fait, est rétabli de façon glorieuse, quelque chose de ce style. On retrouve quelque chose de notre corps. On le retrouve dans la gloire.
Oui.
Parce qu'en plus, vous dites spiritualisé, mais c'est la même âme. La même de mon âme, c'est, enfin, mon âme.
Ah oui, ça, il n'y a pas de doute que
donc,
c'est pas une autre âme.
Cette âme va réinformer ce corps.
Oui.
Notamment, on pourrait dire dans ce cas-là que les âmes du purgatoire, par exemple, si on en voyait une, elle ressemblerait à la personne telle qu'elle était corporellement avant sa mort.
Ah ben bien sûr, puisque l'âme a la même forme que ton corps.
Donc elle va être d'accord.
Elle a la même forme.
Donc, il y a une ressemblance qui va...
L'âme, c'est la forme substantielle du corps. Donc, il est bien évident que si tu Mais tu vois, rappelle-toi la dernière fois que tu as eu une apparition de la Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Tu as bien vu qu'elle ressemblait parfaitement à...
Et quand tu dans la photo. Et spiritualiser, je ne comprends pas ce que vous voyez.
Spiritualiser, c'est le point de vue de la grâce. Mm-hmm. Bon, regarde bien comment... Regarde Jésus dans la transfiguration. C'est corps spiritualisé. C'est pas corps glorieux.
Alors au ciel, il n'y a plus la grâce, sur toute la gloire.
Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais regarde, si tu peux... Saint Séraphin de Sarov. Tu vois? Pour prendre plus proche de nous.
Ouais.
Bon, bah écoute, si... Bon, et puis toute la spiritualité, par exemple, orthodoxe,
ouais.
Tu vois, où on vit des énergies qui sortent de l'Esprit-Saint. Saint Simeon, le nouveau théologien, par exemple. Saint Séraphin de Sarov, que ce soit donc du côté donc, de Constantinople ou du côté de Slava. Hein? Eh bien, régulièrement, leurs saints, tu vois, nous, nos saints en Occident, en Église latine, c'est la crucifixion. Hein? Saint François d'Assise, tout ça, c'est la croix. Voilà, c'est ça. Mais les saints des églises orientales, donc orthodoxes, c'est la transfiguration. Alors, de temps en temps, on les voit, la lumière qui déborde, et alors, comme un soleil, enfin, je sais pas, ça, c'est comme une espèce de nuée qui sort de lumière qui sort d'eux, t'es là, ah ben, dis-le, mon père, et toi-même, si t'es en train de discuter avec eux, ben, toi-même, tu es, ton corps devient lumineux. Hein. Bon, très bien. Ben ça, voilà, quand c'est la transfiguration. L'état transfiguration que tu vois, par exemple, que Jésus a la transfiguration avec Élie et Moïse, bon, et puis Saint-Pierre qui en prend plein la patate, c'est vachement bien d'avoir un corps spiritualisé comme ça, oh, hein, et il a dit, mais si on restait là tout le temps, les autres, ils peuvent crever dans la vallée. Et Jésus dit, hop, mais non, c'est pas Jésus, c'est le Père. Le Père ne veut pas ça. Le Père, lui, ce qu'il veut, c'est la croix. Et il veut le salut du monde. Il ne veut pas un retour au paradis terrestre. D'accord ? Donc le corps spiritualisé, au paradis terrestre, Adam et Ève avaient ce corps lumineux parfaitement maîtrisé dans la lumière à cause, non pas de l'âme, mais à cause de la grâce. Il ne faut pas oublier que dans le paradis terrestre, je veux dire à la création de l'homme et de la femme, ils vivaient, une parfaite maîtrise de l'âme sur le corps. Oui, mais c'était la grâce originelle qui faisait cette espèce d'état de lumière. Ça va ?
Dans quelle mesure on vivra de ça au ciel, parce qu'au ciel...
Ah ben on en vit parfaitement.
Quand on sera au ciel, je veux dire, puisqu'on parle plus de grâce au ciel, on parle de gloire.
Oui, mais néanmoins, toutes les propriétés de la spiritualisation y seront. Ouais, puisque le plus ne supprime pas le moins.
Oui, d'accord.
C'est exactement comme dans l'amour. Quand tu aimes quelqu'un au 32e degré de profondeur de l'amour, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus au 22e degré. Au contraire, ça prouve que tu l'aimes dans tous les autres degrés antérieurs. Bon. Voilà. Alors, on continue. Alors, oui, j'étais en train de répondre donc à une question de l'étroit. Donc, tu vois, ça nous mène loin, hein, cette histoire. Donc, tu vois, la fin des temps prophétiques, la fin des temps de l'Église, donc, voilà, donc du corps mystique, du Christ, et enfin la fin des temps la fin des temps prophétiques, la fin du temps de l'Église, et enfin la fin de l'humanité. Vous voyez ça? Bon, alors là, il faut beaucoup prier Jésus de pouvoir participer à celui-ci et à celui-là. Ce serait bien si ça pouvait être bien rapproché les deux. On pourrait vivre les deux, nous. Ah, j'aimerais bien, moi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de saints et de prophètes qui auraient aimé ça et qui ne l'ont pas vécu. Enfin, on n'y est pas encore, donc on ne peut pas dire que c'est nous, mais ce serait pas mal. Bon, alors, ce serait balèze, quand même. Voilà, bon, donc maintenant, on passe du coq à l'âne, si je puis dire, enfin. Oui, parce que, vous voyez, regardez aussi, tiens, là, vous avez un autre problème. Combien, je suis sûr qu'il y a une question que vous ne m'avez jamais posée depuis 4 ans et qui m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup que vous ne l'ayez jamais posée. Comment ça se fait? Comment est-ce que le bon Dieu peut permettre, quoi, que des milliards d'êtres humains d'aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de jeunes, par exemple. Beaucoup. Enfin, la plupart, si je puis dire. Le très grand nombre.
Eh bien, ils n'acceptent pas à la vérité. Ils n'acceptent pas à l'amour. Ils n'acceptent pas ni à l'amour humain, ni à l'amour religieux, c'est aussi là, ni à l'amour dans la grâce, ni à l'amour dans la croix, ni à la vérité, ni à la liberté. Là, 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 ça fait 9, vous voyez. Plus 1, 10. Et ceci d'une manière invincible. Ils n'y peuvent rien. L'erreur invincible. Celui qui n'adhère pas à la vérité par la foi ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Et on s'aperçoit que le plus grand nombre d'aujourd'hui, s'il n'accepte pas la vérité, c'est pas de sa faute. C'est une erreur. Il est dans l'erreur. Mais c'est une erreur invincible. Rappelez-vous toujours, c'est un terme de catéchisme de élémentaire. Ça. L'erreur invincible. Comment ça se fait que bon Dieu puisse permettre ça? Puisqu'il faut... Alors ça, c'est par rapport à l'erreur, donc la vérité. Mais vous avez donc aussi le point de vue de la liberté, d'accord? Pouvoir se donner. Regarde combien de la génération aujourd'hui, à cause de cette idéologie athée, ne peuvent pas, de manière invincible, hein, c'est pas parce qu'ils sont des mauvais gens, mais ils ne peuvent pas s'engager. Ils ne peuvent pas engager leur vie. Ça, c'est le propre de la génération d'aujourd'hui. S'ils sont ceux qui étaient avant, du reste, avant de connaître la foi et la conversion, ils s'apercevaient qu'ils vivaient par exemple en concubinage avec quelqu'un, ils ne pouvaient pas s'engager. C'était invincible. Leur liberté n'était pas... Personne ne vit, bien entendu, ici. Nous, ici, ce n'est pas le cas. D'accord? Mais vous avez entendu de l'amour aussi. Mais c'est extraordinaire, ça. Est-ce que vous voyez le problème énorme que... Vous voyez le problème ou pas? Est-ce que vous voyez le problème? Je suis sûr que vous vous êtes posé la question. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça, que le bon Dieu, il dit, sans la foi vous ne pouvez pas, et si vous ne vous donnez pas, vous n'atteindrez pas, et vous ne serez pas sauvé. Et puis pourtant, en même temps, tous ces jeunes, tous ceux qu'on connaît autour de nous, tous les gens, quoi, qui sont en Afrique, en Asie, dans toutes sortes de sectes, par exemple, quelqu'un qui est pris dans une secte. Erreur invincible. Ils sont dans l'erreur, mais c'est invincible. Ils cherchent, certainement, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Moi, par exemple, j'aurais voulu vous parler de l'islam, mais comment vous vous appelez? Non, mais j'ose pas, parce que je veux pas vous blesser.
Non.
C'est vrai, non, je veux pas vous blesser.
Non, je ne veux pas blesser, au contraire. Elle est venue.
Non mais par exemple, bon, j'ai vécu en terre islamique pendant. Ben, c'est là que vous êtes quand même très touché, parce que vous voyez donc des gens qui, à travers l'islam, par exemple, aiment Dieu. Ah, ça, c'est pas doute ici. Enfin, pas tous, hein. Tous, comme chez nous, il y en a qui utilisent la religion pour leur, pour eux, quoi. Hein. Bon, très bien. Ça, d'accord, hein, surtout ceux qui ont le pouvoir. Ça, c'est absolument évident. Mais néanmoins, ben, parmi les gens, j'allais dire, des croyants, ben, il y en a qui aiment Dieu d'une manière étonnante. Vous voyez? Et puis, vous rendez compte que du coup, à travers ça, ils découvrent que quand Dieu leur parle, moi, ils me l'ont dit, hein.
Vous racontez des histoires pérennes.
Quand Dieu leur parle, c'est Jésus.
De ce marabout.
Quand Dieu leur parle, c'est Jésus. Mais quand Dieu leur parle personnellement, c'est Jésus. Ils le savent bien. Et ça, c'est des expériences personnelles dans l'islam. Bon, maintenant, on leur dit, mais alors, si tu le sais, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Jésus d'aller plus loin? Vous voyez? Ça, Là, il n'est pas, il n'est plus dans l'erreur invincible, celui-là, puisqu'il le sait que quand Dieu parle, c'est Jésus. Quand Dieu parle personnellement à un homme, c'est Jésus. Parce que c'est dans le Coran, remarquez bien, c'est écrit en toutes lettres. Hein. Quand Dieu parle, c'est le Verbe. Et à un autre endroit, il est écrit que Jésus, c'est Naïsa, c'est le Verbe. Donc, seulement, vous savez, dans le Coran, je ne sais pas si on fait ça comme ça en Yougoslavie, mais dans le Coran, on apprend le Coran par cœur, et comme les Arabes eux-mêmes ne connaissent pas l'arabe ancien, et pour cause, puisque c'est un arabe qui a été fabriqué par un rabbin de la Mecque, n'est-ce pas ? Donc, c'est un arabe, c'est un mélange de langue juive, hébraïque et arabe, quoi. Bon, alors aujourd'hui, les Arabes, ils ne comprennent pas du tout. C'est comme vous quand vous lisez le latin, quoi. Vous ne comprenez pas. Et donc, ils doivent apprendre leur Coran par cœur. Ils peuvent savoir 80 pages du Coran par cœur. Tu leur dis un verset, puis tu donnes la suite. C'est extraordinaire, d'ailleurs. Mais ils comprennent rien. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est terrible. Et si tu leur dis, mais il faudrait que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Non, non, tu ne dois pas le savoir. Sinon, tu blasphèmes.
C'est clair, comme vous l'expliquez.
Peut-être. Bon, donc, il découvre par l'amour de Dieu qu'il vit de Dieu et que du coup, on lui envoie son verbe, Dieu lui envoie son verbe. Et que ce verbe, c'est Jésus. La nuit, en songe, c'est Jésus qui lui parle. Bon, donc, il n'est plus dans l'erreur invincible. Mais, il est, donc, il ne peut pas donner sa vie à Jésus. Parce qu'il est dans un contexte religieux qui fait que s'il le fait, il est foutu. Il est foutu. D'abord, c'est vachement embêtant, il y a quatre femmes, etc. Vous comprenez ? Donc, vous voyez, liberté invincible. C'est terrible, ça. Comment faire ? Et pourtant, il faut qu'il vive de Jésus. Regardez si vous avez été à la messe pendant cette semaine, Jésus qui a dit pendant toute la semaine, « Je suis le pain de la vie. » Et ce pain de la vie, je vous le donne. Et ce pain de la vie, c'est ma chair. Et c'est mon sang. Je suis descendu du ciel. Et celui qui ne prend pas ce pain, et c'est ma chair ni mon sang, il n'aura pas la vie. Celle-là. Et il n'aura pas la vie éternelle. Et il n'y aura aucune part avec moi dans le royaume de mon Père. Ah bah merde alors, et tous ces gars-là qui vivent de Dieu. Ben oui, mais il n'y aura pas. Alors, non, mais je pose la question, vous comprenez bien. C'est un gros problème. Ben, la miséricorde ne suffit pas, puisque la miséricorde ne supprime pas la vérité. Donc si Jésus dit ça, c'est que c'est la vérité. Vous voyez ? Alors, hein ? L'erreur invincible. Non, mais j'incite pour que vous disiez, mais c'est vrai, mais c'est absurde cette histoire. Il y a une absurdité là. Il y a quelque chose ou bien d'injuste, ou bien une impasse, ou bien. De vous sentez, j'espère, quand même. Ou bien j'arrive mal à m'exprimer, je sais pas. Vous avez l'air avachi quand même. Voilà. Vous voyez, alors, vous voyez comme c'est important de se poser cette question-là, parce que, et le tout petit reste qui sera à la fin, vous voyez, l'épanouissement de cette espèce de l'aspect substantiel de la grâce de l'Église de Jésus, qui traversera complètement l'Église de Jésus. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à être un seul corps mystique avec Jésus jusqu'à la substance, si je peux dire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est ce que dit saint Paul, hein, vous n'avez pas encore donné votre vie, et vous n'avez pas encore donné vos croix, ni vos souffrances, jusqu'au sang. Alors, jusqu'à la substance.
Oui, non plus, j'avais pas fait. Quand il avait dit ça.
Ben, si, je crois qu'il a été. Il explique justement qu'il avait été flagellé déjà 30 fois, je sais pas quoi. Bon, vous n'avez encore pas donné jusqu'au sang. Hein. Alors, vous comprenez. Donc, vous voyez, un petit reste à la fin. ce petit reste, comme je vous ai expliqué ce qui faisait la retraite sur l'Eucharistie, vit de l'Eucharistie. Et quand tu vis de l'Eucharistie, c'est ça qui est extraordinaire. Tu deviens le, toi-même, le corps mystique du Christ. Alors je vous rappelle, donc le mouvement intérieur, c'est un petit résumé peut-être de la conclusion de la retraite sur l'Eucharistie, que j'expliquais à quelqu'un d'entre vous qui m'a dit « Oh, répétez-moi ça, oh !» Je ne dis pas qui c'est. Alors, où est mon... Ah, dans ma poche. Alors, je m'excuse, c'est un peu sommaire, mais ça fait rien. Donc aujourd'hui... Oh. Ah, voilà. Aujourd'hui, je suis bien obligé de prendre des schémas d'imagination, n'est-ce pas? Alors, voilà. Quand vous rentrez dans l'Église, quand dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous savez, les cinq plaies de Jésus, les cinq ouvertures. Alors, je vous dis, moi, n'oubliez pas que ce n'est pas vous qui allez à la messe, mais c'est tous ceux qui sont pris dans cette innocence crucifiée, tous ceux qui sont dans l'invincibilité de l'erreur, dans l'invincibilité de la liberté, parce que justement Satan a inventé toutes sortes de demeures religieuses sur la terre pour empêcher les hommes d'entrer dans l'Eucharistie. Ils sont donc cloués religieusement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est religieusement qu'on a cloué Jésus. C'est les religions, hein. C'est les responsables religieux, c'est ceux qui ont cloué Jésus sur la croix. C'est extraordinaire de comprendre ça. Donc tous ces gens-là sont bloqués. Il faut comprendre ça, hein. Et puis vous, vous êtes comme si Jésus, Marie est libre. C'est extraordinaire. Donc comprenez simplement que, à ce moment-là, c'est pas vous seul. C'est le corps mystique de Jésus tout entier qui rentre dans l'Église. Quand vous, vous rentrez dans l'Église. Dès que vous faites le signe de croix, ce n'est pas vous qui êtes face au Dieu unique pour l'adorer. Non. C'est plus que ça. Il y a ça, mais c'est plus que ça. Vous êtes le corps mystique de Jésus. Vous êtes le corps mystique du Christ. Dans le corps mystique du Christ, il y a cinq parties. Je vous le rappelle, première partie, la tête, c'est Jésus, dans son corps, dans son âme et dans sa divinité. Le Christ ressuscité. Alors là-dedans, vous avez son corps ressuscité, son âme humaine ressuscitée, bon, sa personne, le Verbe, sa personne. Et donc toute la divinité, voilà les trucs. Vous avez la mère, vous avez la grâce. La grâce en personne, c'est qui? C'est l'Immaculée, c'est la Vierge Marie. Donc vous avez la Vierge Marie dans son Assomption. Son corps est dans la résurrection, il est royal. Bon, son âme humaine qui est dans la résurrection. Ça va? Vous avez tous les saints qui sont, on appelle ça l'Église triomphante, l'Église glorieuse. Donc c'est Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Saint Bernard, etc. Ils sont, alors, mais seulement, ils ne sont pas avec leur corps, ceux-là. Hein. Ils sont là, vivement que le corps arrive. En attendant, ils aspirent à ça. Hein, lisez dans l'Apocalypse le sixième sceau. Vous verrez qu'ils aspirent, ils sont sous l'autel, ils disent « Ah, mais après Seigneur, je suis d'accord, tarderas-tu » hein? Ils aspirent à la résurrection glorieuse, et en attendant, Jésus leur dit « Voilà un habit blanc. » Ils disent « Ouais, qu'est-ce que tu vas ?» Alors Jésus leur dit « calmos, calmos. » Il leur file un habit blanc. C'est quoi l'habit blanc? L'habit blanc, mais c'est le corps ressuscité de Jésus. Il les revêt.
de son propre habit, sacerdotal, en une seule couture. Celui qui a été fait par la Vierge, vous savez bien, et ce qui a revêtu le Verbe de Dieu de par la maternité divine de Marie, c'est sa chair. Faut apprendre à lire l'écriture quand même. Alors, vous avez l'Église glorieuse. Voyez, ici ce sont une multitude d'âmes glorifiées. Voyez, mais avec une aspiration, un manque. Bon, vous avez quatrièmement, tous ceux qui sont effectivement, ont laissé leur corps, et puis ils appartiennent à Jésus, il n'y a pas de problème, et dans une erreur invincible plus ou moins. C'est justement à cause de ce plus ou moins qu'ils sont purgatoires et ils souffrent. L'Église souffrante, c'est tous ceux qui sont morts mais qui souffrent. Ils sont dans la purification. Ça va ? L'Église souffrante. Pas seulement les chrétiens, hein, tous. Tous les hommes qui, par exemple, un musulman, puisque bon, très bien, je suis branché sur l'islam en ce moment, bon, je suis désolé. Bon, c'est très bien, vous allez avoir un bavé pendant tout le week-end, puisque je me suis continué à peu près 1500 pages de travail pendant 15 jours. Bon, et j'ai pas fini. Alors, bon, parce qu'il faut regarder en hébreu, en arabe, etc. Un travail énorme, bon. Alors, il faut bien que ça sorte par quelques pores de la peau. Alors, de temps en temps, je vais prendre mon bazooka. Enfin, je serai très calme parce qu'il y a des représentants ici. Très bien. Je serai très, très calme. Bon. Alors voilà, l'Église souffrante. Vous voyez, ici, tout cela, ils font partie du corps de Jésus, du corps mystique du Christ. Ils font partie de ce... d'un seul... C'est vraiment un seul corps, hein, attention, hein. C'est un seul corps, c'est pas symbolique. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, en tout cas, ils souffrent. Ils souffrent, ils ne peuvent rien faire. C'est fini. Tout leur mérite, etc., c'est fini. Ils ne sont plus dans le temps où la liberté peut donner davantage. Ah, alors ils ont besoin de nous. Alors là, ici, il y a deux manques, là. Un et deux. Ils sont en manque de glorification et en manque aussi par rapport à leur corps. Ah, en mort par rapport à la purification et en mort par rapport à la glorification. Bon, vous avez
ils ne sont pas dans la vision béatifique.
Et oui, ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas dans la vision béatifique. Mais ils ont un amour incroyable. Donc ils sont dans une plénitude de joie, si je puis dire, très très grande, à cause de cet amour plénier qu'ils ont. Mais ils souffrent. Parce qu'ils ne sont pas dans la vision. Et ils savent que c'est de leur faute. Bon. Et cinquièmement, il y a nous, nous on en bave aussi. C'est l'Église militante. Alors l'Église militante, ici, il y a deux parties. Premièrement, ceux qui sont dans l'invincibilité, donc ceux qui ne vivent pas les sacrements, mais ce n'est pas de leur faute, c'est-à-dire que si ça ne tenait qu'à eux, ils iraient à fond la caisse. Hein? Mais seulement, il y a les totos qui sont là, les puissances intermédiaires, le marabout, ils disent, ouais, comment ça, bien. Si tu m'écris un bouquin pour dire ce que tu as découvert, etc., hop, je demande à tout le monde de te zigouiller, tout ça. Ah bon, on dit, calmos, je reste, je tiens quand même, ah bon, très bien, on verra ça. Bon, bref, il y a tout, et oui, mais oui, tout c'est. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont, on appelle ça les hommes de bonne volonté. Bon, les hommes de bonne volonté, c'est ceux qui vivent de la foi, quelquefois, sans le savoir, s'ils sont dans l'erreur invincible. Donc à ce moment-là, ils sont dans la foi et dans la grâce, mais ils ne le savent pas. Il y en a qui le savent, mais qui ne peuvent pas faire que cette grâce augmente. Parce qu'ils n'ont pas, ils s'estiment pas le droit d'aller au sacrement, ou je sais pas quoi, enfin bon. Mais ils font partie. C'est pas du tout comme ceux qui disent non. Hein? Tous les francs-maçons, tous les. C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil que le type qui fait de la sorcellerie, des messes noires, des médiums, des contacts avec les maîtres cosmiques et tout ça. Je parle pas de cela. Ceux-là, ils sont pas du tout dans l'erreur invincible. Oui, oui, c'est ce qu'ils font. Oui, oui. Bon, mais ceux qui sont dans l'Église de Jésus, dans l'amour de Dieu, autant qu'ils peuvent, mais qui ne peuvent pas vivre des sacrements de Jésus d'une manière physique, d'une manière osiologique, substantielle, concrète. Bon, voilà, très bien, ils font partie de l'Église, ils ont la grâce. Ils ont quelquefois la foi, quelquefois ils ne l'ont pas. Mais ils l'ont toujours implicitement, cela, n'est-ce pas? Puis, vous avez ceux qui... Alors là, cela, ça va devenir la portion congrue, hein, de plus en plus. Hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, hein, ça va diminuer de plus en plus. Et heureusement. Alors, vous voyez, ici, vous allez avoir donc l'Église implicite, si vous voulez, sur la terre, donc et ce qu'on pourrait appeler l'Église explicite. C'est nous. Nous vivons des sacrements. Donc, voilà. Voilà le petit reste qui est là. Et ce petit reste, de plus en plus, vous devez comprendre que c'est vous seul. C'est vous. Et vous portez, vous, le petit piou-piou là, vous portez tous ces mecs-là. Jésus compris. Là. Hein, c'est mieux que la zone 4, ça. Hein. Regardez ça. Alors, alors, présentez devant le trône. Vous ouvrez les écluses du haut. Vous savez, comme dans Goldorak, je parle. Et c'est tous les saints s'incorporent. C'est extraordinaire, des milliards de saints. Là, là, vous ouvrez les écluses du bas. C'est extraordinaire. Toutes les âmes du purgatoire. Vous avez un pouvoir, vous savez, je ne sais pas si vous voyez cette apparition de la Vierge à Fatima. Ou à un moment, elle est comme ça, et puis elle présente ses mains comme ça, puisque c'est bientôt, hein, c'est demain, je crois, la fête, c'est l'anniversaire.
C'est le 13.
C'est mercredi. Ah, c'est mercredi. Alors, et avec ses mains comme ça, elle ouvre les entrailles des lieux inférieurs. Et elle montre les âmes qui sont dans les lieux inférieurs. Voilà, vous avez ce pouvoir d'ouvrir les écluses du bas. Ce que disait saint Hildegarde. Hein? Vous avez ce pouvoir. Vous ouvrez d'abord, commencez s'il vous plaît d'abord par les signes. Hein? Vaut mieux. Bon. Vous ouvrez les écluses du bas. Et toutes ces âmes s'incorporent en vous. Et elles vont participer à votre acte de foi. Elles ne peuvent plus faire un acte de foi. Elles vont participer à votre acte de foi. Vous allez l'inviter au festin des noces eucharistiques. Vous ouvrez les écluses de la gauche, sur la surface de l'univers, de notre terre. Les écluses de la gauche, les écluses de la gauche, c'est les hommes de bonne volonté qui n'en peuvent mais parce que la porte n'est pas ouverte de leur côté. Par de pour, le coup de lance était sur le côté droit. Alors vous, vous ouvrez les écluses et tous les hommes de bonne volonté, tous ces gens purs, merveilleusement disposés, vous les faites pénétrer en vous. Regardez, hein, le nombre de tétans qu'il y a à l'intérieur. T'as pas l'air, en fait. Vous êtes le nouveau Xénu, vous savez. C'est un conglomérat. Mais c'est fou, mais c'est un conglomérat. C'est pas des titans, c'est bon, très bien. Bon. Et vous ouvrez les écluses de droite, c'est-à-dire tous ceux qui, sur la terre, prient avec Jésus, en Jésus, comme Jésus, par Jésus, par la grâce. 1, 2, 3, 4. Oh, ça suffit pas. Qui va faire l'unité? Rappelez-vous toujours, c'est Marie qui fait l'unité. Et donc, laissez l'Immaculé, à partir du centre de votre âme, où s'est blottie la grâce sanctifiante, Très bien. Laissez l'Immaculée faire l'unité en travers votre corps et votre âme, du corps mystique dans votre propre corps. Et là, maintenant, puisqu'elle est dans l'Assomption, vous pouvez dire notre Père. Et vous communiez. Si vous communiez dans l'Eucharistie, en gardant cette ouverture extraordinaire, à ce moment-là, vous donnez une gloire accidentelle à toutes les âmes qui sont dans la gloire. C'est son corps. Dans l'Eucharistie, vous recevez le corps du Christ. Et c'est le corps glorieux. Et donc, vous donnez une gloire. Vous voyez, cette soif, c'est extraordinaire de savoir qu'on peut faire du bien au sein. Personne, vous n'aviez pas pensé à ça. Je suis sûr que vous n'y aviez pas pensé. C'est extraordinaire. Voilà ce que ça veut dire, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que tous ceux qui sont dans l'erreur, pas besoin qu'on soit pas besoin qu'on soit 6 milliards. Soit. Mais qu'au moins ceux qui ont été choisis pour servir à sa présence vivent de ça. Ça suffit. Nul ne pourra pénétrer, j'allais dire, dans la vision béatifique du ciel sans l'Eucharistie. Mais c'est par ceux qui en vivent que les autres seront sauvés. Mais il faudra que, réellement, ils soient touchés par l'Eucharistie. Ça se fera par la médiation du sacerdoce royal des croyants. Ça va ? Ouvrez les écluses, tu vois. Et c'est l'Immaculée qui fait l'unité, et à ce moment-là, vous vivez de tout ce que le sacrement de l'Eucharistie vivifie, glorifie, purifie, mais dans tous ceux qui sont là-dedans. Ça va ? Bon, pas compliqué, c'est très simple, comme c'est beau. Bon, alors, oui.
Quand on dit, quand on parle de ces gens des hommes de bonne volonté, ça va être des gens qui sont dans l'église, des gens qui ne connaissent pas la révélation chrétienne ou qui n'ont pas, qui n'ont jamais annoncé la parole.
Bon, les hommes de bonne volonté.
Ouais, c'est ces gens qu'on côtoie, qui des fois vont mirer, mais ils ne savent pas où ils vont, mais ils rament.
Voilà, c'est tous ceux qui sont dans le.
Même s'ils connaissent l'église, tout ça, bon, mais pour eux, pour l'instant. C'est...
Oui, ils ne peuvent pas rentrer dans l'église. Pourquoi ? Parce qu'on leur a donné une image de l'église, on leur a dit, on les a bombardés toute leur vie. En disant, ouais, l'église c'est ci, l'église c'est là. Alors, dis, bah, tu vas lui dire, ah, salut, mais rentre donc dans l'église. Ah non, non, pas rentrer dans l'église. Non, hein. Tu vois ? Alors, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas rentrer dans l'église, c'est parce qu'ils veulent pas rentrer dans l'église telle qu'on leur a expliqué. Voilà. Alors, c'est pas pareil. Bon. Tu comprends ? Bon. Voilà. Regardez par exemple tous ceux qui sont dans l'islam. Bon. Non mais c'est vrai. Alors, ils vont lire dans le Coran, ouais, les chrétiens, qu'est-ce que ça, ici et là, bon, tu dois les respecter parce que d'accord, ce sont des croyants, mais enfin, lamentable et tout, ils disent qu'il y a trois dieux. Quoi, alors qu'il y a trois dieux, qu'il y a Jésus, qu'il y a Marie, qu'il y a Dieu, qu'il y a Allah, enfin bon, ils sont des ils sont pas possibles. Ils mettent avec Dieu, ils mettent des associés, alors il y a Dieu. Puis des associés, il y a Jésus, il y a Marie, qu'est-ce que c'est cette histoire, tout. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. Enfin, voyons, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu leur diras, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, donc, dès qu'un chrétien va voir un musulman, il dit, mais deviens donc dans le Christ. Ah non, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Ben, oui, bien sûr, il n'y a qu'un seul Dieu. Ah ben, alors, fais-toi musulman. Ben non, non. Mais il y a une vision. Alors, il y a une vision. Vous voyez, ils ont une vision de Dieu qui est de l'Église ou du Verbe incarné, si vous voulez, qui est matérialisé. Voyez. Alors, ils ne peuvent pas rentrer là-dedans. Et ce n'est pas de leur faute. Alors, s'ils le savaient, ils rentreraient. Ça va ? Si c'était. Suppose qu'ils le sachent. Si c'était pleinement libre, ils rentreraient. Là, regarde le gosse, par exemple. Bah, tout le monde ne s'appelle pas Jean-Marie Lustiger. Hein ? Alors lui, bien sûr, il était dans une famille juive, etc. Pareil, les chrétiens ici, les chrétiens là, l'inquisition, machin, et tout ça. Bon, très bien, il a dit à sa mère, écoute, j'ai 16 ans, je me fais baptiser, point à la ligne. Ah bon, tu te fais baptiser? Bon, ben, si tu te fais baptiser, eh bien, je me livre à la Gestapo. Voilà. Eh bien, il a dit, moi, je sers Dieu, je ne sers pas les hommes. Hein. Entre Christ et puis le Messie d'Israël et toi, tu m'as toujours enseigné que c'est Dieu qui passait devant, donc j'obéis à Dieu. Hein. Et donc, il s'est fait baptiser, et l'après-midi, il s'est livré à la Gestapo. Et puis elle a été donc passée à la chambre à gaz quelques temps après. Ah d'accord, mais tout le monde ne s'appelle pas Jean-Marie Lucillet. Je veux dire, c'est bien de faire ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout le monde, tu te rends compte, tout le monde n'a pas cette grâce. Je veux dire, peut-être, je ne sais pas. Enfin, lui, il l'a fait. Bon, très bien. Mais est-ce qu'il l'a fait parce que c'était une forte tête ou bien parce que... Ou parce que c'est un homme de bonne volonté, peut-être aussi parce que c'est une porte de tête, hein, à savoir, je sais pas, peut-être que... Mais aussi sa femme, je veux dire sa mère, était un peu bête, hein. Oui. Non, franchement, faut vraiment... Non, mais d'accord, errare humanum est. Faire une erreur, c'est humain. Mais perseverare, c'est diabolique. Perseverare diabolicum. Ça, c'est sûr qu'elle a persévéré dans une erreur qui était parfaitement invincible. Ça la regarde, hein. C'est, voilà. C'est son problème, je dirais. Moi, je ne la juge pas. Hein. Mais enfin, quand même, il faut faire attention. Bon, alors donc, ça, c'est la faiblesse de la femme, ça. Que... alors, la femme n'a pas que des qualités, elle a aussi quelques défauts. Les hommes, c'est pareil. Alors j'ai toujours pas répondu à ta question. Alors, ta question était très simple, voilà. Il y a plusieurs manières de lire l'écriture. Et toi, tu disais par exemple, Jésus, dans l'évangile de Saint-Marc, dit voilà, celui qui croit en moi, eh bien, il aura la vie éternelle. Celui qui refusera de croire, sera condamné. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Celui qui donc refusera de croire, qui ne sera pas baptisé, enfin, sera condamné. C'est terrible. C'était quand même la dernière parole de Jésus. Hein? Et voici à quoi on reconnaîtra ceux qui croient. On reconnaîtra ceux qui croient à ce que les serpents, ils seront mordus. Ça ne lui fera aucun mal, que le poison ne les tuera pas, que etc., etc. Bon, toutes sortes de trucs, et puis ils parleront en langue, et puis toutes sortes de trucs comme ça. Hein? Et puis ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront mieux, et enfin, toute la litanie que Jésus, et puis après Jésus monte au ciel dans l'ascension. Ça, c'est après sa résurrection. Hein? C'est après sa résurrection, c'est une apparition. Non, c'est pas ses dernières paroles, mais en tout cas, c'est les dernières paroles relatées par les apôtres. Mais sa dernière parole, attention, c'était sur la croix. Après, ils ne l'ont pas vu, puisque ça, ce n'est qu'une apparition. Tu sais bien que dans une apparition, alors, c'est une. Par exemple, Sainte Marguerite Marie apparaît le monial. Je ne sais plus, au XVIIe siècle, je crois, sauf erreur, eh bien, a eu, elle aussi, une apparition de Jésus ressuscité. Mais c'est ni plus ni moins que ce qu'avaient eu les apôtres à ce moment-là. C'était une apparition. Mais à Marguerite Marie aussi.
Oui, mais on peut le toucher.
Eh bien, elle pouvait le toucher.
Pourquoi vous dites que c'est une apparition?
Ben, c'est une apparition.
Comme Marie avec
oui, ce n'est qu'une apparition, mais ce n'est pas lui, parce que s'ils avaient vraiment touché le corps glorifié de Christ, il ne serait plus sur la terre.
Mais donc, c'est si. Il vient avec, non?
Ah, pardon?
Il n'y a pas une autre théorie, selon l'interprétation selon laquelle quand Marie ou Jésus apparaît, en fait, le ciel sort avec eux.
Oui, mais ça, c'est une manière de parler. Voilà, le corps de. C'est une manière de parler. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, si tu veux. Mais. Ah oui, parfaitement. Parfaitement, il y a parfaitement. Attention, c'est une apparition. Ça, attention, c'est la foi catholique. Hein. C'est la foi catholique. C'est que le corps de Jésus dans la résurrection, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le voir à partir du moment où il est ressuscité, et si toi, tu es sur cette terre. Tu ne peux pas. Donc la seule chose que tu vois, c'est une apparition. Autrement dit, Dieu adapte son corps ressuscité à ta sensibilité
mais c'est une adaptation.
Mais lorsque Thomas a mis ses mains
oui,
sur le...
c'est une adaptation. Donc c'est une adaptation. Il s'est adapté. Et il a fallu donc, d'une certaine manière, qui suppose que ce soit vraiment lui en personne qui est apparu à Thomas. Hein ? Suppose. Et bien à ce moment-là, il aurait fallu, je ne sais pas, c'est pas précisé dans l'écriture en l'occurrence. Hein. Alors à ce moment-là, il a fallu qu'il se ramasse, pour ainsi dire, miraculeusement, dans une forme humaine physique qu'on puisse toucher. Mais cette forme physique qu'on pouvait toucher était une adaptation. Après, il est rentré dans son corps physique ressuscité. Mais ce n'est pas ça que saint Thomas a touché.
Mais on dit pas qu'il a touché de toute façon.
Non, mais à un moment, on voit que...
Il a dit,
et on voit que saint Thomas se prosterne à ses pieds, et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais c'est vrai que... Il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas.
Ne me touche pas.
Mais peu importe, c'est pas très important. C'est pour comprendre que la résurrection du corps de Jésus, quand une apparition, par exemple, l'ange Gabriel apparaît à Marie, est-ce que c'est l'ange Gabriel qu'elle a vu ? Un ange n'est pas comme ça. Mais Dieu permet à un ange de créer et Dieu crée du reste une forme pour l'occasion. Il crée une forme transitoirement pour l'occasion de la révélation. Alors il y a une forme humaine, si tu veux, une forme d'homme, un visage humain, etc. Et l'ange Gabriel donc apparaît. Donc elle entend véritablement des sons et elle voit véritablement une forme angélique, si tu veux, d'accord. Mais ce n'est pas ça un ange. Un ange n'a ni corps ni forme humaine. Tu le comprends ça? Bon, c'est une création intermédiaire permise par Dieu pour s'adapter à nous. Puis après, ça disparaît. Et l'ange, lui, il reste un ange. D'accord? Tu le comprends ça? Eh bien, pareil pour la résurrection. Je vois que ça te fait un problème. Ça te pose un problème, je crois. Oui, un petit peu quand même. Hein? Bon, réfléchis bien à ça et surtout, lis bien ta doctrine de foi. En prenant par exemple saint Thomas d'Aquin sur le mystère de la résurrection. Hein? Tu vois? Bon, non, mais on n'a jamais fini de se former, je veux dire, dans la doctrine. Hein? Mais c'est très important. C'est à cause de ça que l'Église dit toujours attention aux apparitions privées. Prenez les apparitions privées, les révélations privées. C'est très important, les révélations privées, parce que Dieu ne va pas tout de même permettre qu'il y ait cette espèce d'annonciation à la Vierge Marie pour rien du tout. Donc c'est pour quelque chose. Mais n'allez pas croire matériellement à tout ce que vous avez vu, en disant, mais c'est vraiment l'ange Gabriel en personne, et l'ange Gabriel, je vous affirme, il a des ailes, il a des trucs comme ça. Ah non, l'ange Gabriel n'a pas d'ailes. Si, t'as pas la foi. Un jour, par exemple, il y a un type, il avait compris, c'était ma première visite à Ops. Un garçon musulman. Et puis bon, il s'est baptisé depuis, hein, donc ça dure autant que... Bon, comme il n'est pas mort, je ne peux pas dire son nom, encore. Et alors, je ne sais pas, il avait compris, dans sa préparation au baptême, il avait compris que d'Abraham sortait la bénédiction, comme Jésus sort la bénédiction sur la croix par le côté, etc. Enfin, il avait compris ce genre de truc. Alors, il va voir le père maître, n'est-ce pas, du monastère. Bon, ouais, c'est ça, toute la bénédiction, ça sort comme ça par le côté, et tout. Alors, c'est une porte qui s'ouvre, et c'est là, ici, là, exactement, que ça se passe et tout. Non, il discute pied à pied, tu vois. Alors, mon brave fiston, il avait compris quelque chose. Peut-être parce qu'il avait senti un jour quelque chose ici, c'est possible. Il y a eu un point de côté un jour qui s'est fatigué. Eh ben, mais après un moment d'oraison très intense, c'est possible. Bon, il a eu, bon. Ça vient brûler là. Bon, c'est possible. Alors, à partir de ce moment-là, il dit ça. Eh bien, il est sorti de chez ce brave père, disant, eh bien, si vous ne croyez pas ça, c'est que vous n'avez pas la foi. C'était pas moi, c'était la FaceTime. Heureusement que c'était calme, sinon j'aurais foutu dehors. Mais tu vois, il faut être calme. Faut
ça s'est arrangé après.
Oui, bien sûr. bien sûr, mais c'est, il ne faut pas matérialiser. Donc, les apôtres expliquent, et puis l'Église explique autrement le mystère de la résurrection. C'est vrai qu'il est ressuscité physiquement, corporellement. Tu comprends? Et donc, il peut toucher son propre corps glorieux, ça n'est pas de doute possible. Mais ce n'est pas sous ce mode, sous le mode sous lequel l'ont vu les apôtres qu'il est ressuscité, ça va? Et pourtant, c'est bien lui qu'ils ont vu. Parce qu'il y a eu une permission de révélation à travers, mais c'est pour leur faire comprendre un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas dans cet état-là qu'il est. Ça va? Voilà, moi je te dis simplement ce que tu dois croire. Hein. Maintenant, tu vas dire pas, c'est un autre problème. Alors, oui.
Oui, il s'est montré d'une façon différente. Marie-Madeleine, il s'est montré, elle n'a pas reconnu de suite, elle appellera des mains plus en plus. C'était bien pour montrer. C'était bien pour montrer.
C'était
lui, mais c'était autre chose.
Et d'ailleurs, il leur dit, ne vous arrêtez pas à moi. Moi, dans la résurrection, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas.
Mais comment on peut expliquer, ça, moi, ça me, je peux bien comprendre, que ceux qui étaient plus proches, qui n'avaient que cette... Bon, c'était pas un moment particulier, mais aucun, même les plus gentils, ne l'ont reconnu.
Ah, si, à voir, quand il a les maris, il a...
Oui, la fête, mais la d'accord, mais ni les pèlerins d'Emmaüs, ni Marie, ni quand ils...
Bon, les pèlerins d'Emmaüs, ils l'ont reconnu à l'Eucharistie.
Mais physiquement, pourquoi ils ne l'ont pas reconnu?
C'est
précisément pour ce que je te dis, c'est que il voulait. Ah ben, il avait une apparence, il avait son apparence. Je crois qu'il avait son apparence, l'apparence qu'il avait avant, mais voilée pour montrer que son apparition n'était pas. C'était lui dans la résurrection, mais en même temps, c'était pas sous ce mode-là qu'il vivait de la résurrection, pour exprimer les deux. Et puis en même temps, il se faisait reconnaître à partir du moment où. Il reconnaissait la présence. Alors, il y a eu la présence à travers l'Eucharistie, il y a eu la présence à travers la voix, il y a eu la présence, et tu as les sept modes de présence de Jésus ressuscité, mais c'est jamais à travers le point de vue donc tout à fait matériel de la présentation des apparitions du corps du Christ. Donc, la présence à partir des plaies, hein, pour Thomas, la présence à partir de la plaie, hein, la plaie du cœur. Et cette invitation à aller à l'intérieur de la plaie. Présence dans la plaie. Et alors c'est quand Thomas réalise qu'il est invité à pénétrer à l'intérieur de la plaie, avant même qu'il fait le mouvement de le faire, il comprend qu'il y a la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il fait un acte de foi. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il voit la plaie et il dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est en voyant la plaie qu'il reconnaît que c'est Dieu. C'est extraordinaire. Eh bien, saint Thomas, oui, il voit que c'est l'intimité de la plaie. Alors, je n'ai pas entendu la cloche encore. Hein. C'est Léon qui chante. Hein? Ah bon, alors, écoutez, on va dire, on va prendre un petit break, mais mon pauvre ami, tu vois, regarde, hein, on n'a pas répondu à ta question. Alors, ça fait rien, on va... Je te donnerai la référence de la cassette où j'y réponds. La première conférence de cette année sur l'évangile de Saint Jean. J'ai expliqué les cinq manières de lire la parole de Dieu, de manière à ce que ce soit divers. C'est normal, puisque tu dois lire la parole de Dieu dans la grâce, pas avec tes yeux humains, mais avec ton intelligence humaine, surélevée par la grâce. Or, la grâce a cinq modalités, c'est pourquoi il va y avoir cinq manières de lire la parole de Dieu, ça va? Mais ça, très bien. On va trouver ça peut-être ce soir dans les cassettes chez Charlotte, où on verra la manière de lire la parole de Dieu. Ça marche? Ah bah tiens, si en plus tu veux approfondir la question, tu prendras ce bouquin, commentaire sur l'évangile de Saint Jean, tu prendras la préface, voilà, voilà. Prendra la préface ici, qui fait 50 pages et qui explique cela.
Comment est-ce qu'on lit l'écriture?
Là. Je peux le prendre, c'est à ta disposition, tout ce qui est là.
Bon, à cause de le ramener.
Un mois ou deux, n'est-ce pas? Voilà, la manière de lire la Bible, hein. Donc, tu as plusieurs sens. Tu as une parole de Dieu, tu as la parole de Dieu, elle t'est donnée, tu peux la lire, tu peux rien comprendre du tout, tu peux comprendre quelque chose. Bon. Mais maintenant, si tu commences à comprendre quelque chose, la première fois que tu commences à comprendre quelque chose, eh bien, tu le lis dans ce qu'on appelle le sens littéral. Alors à ce moment-là, dans le sens littéral, tu lis ce que dit le texte. Le texte raconte, par exemple, l'histoire
de Moïse qui se trouve face au buisson ardent. Et alors on dit, il s'approche, on lui dit, ah, enlève tes sandales, ce lieu est dit, tu regardes le sens, etc. L'histoire sainte, Dieu passe à travers des événements humains, des histoires d'hommes, Jésus passe, et tandis qu'il descendait de la montagne, venaient vers lui des foules innombrables, et au milieu d'elles un homme qui était couvert de lèpre. Et quand il vit Jésus, il tomba sur sa face et cria vers celui-ci, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus fut ému, il étendit la main, il toucha celui-ci et lui dit, « Je le veux, sois rendu pur. » Et aussitôt, de lui, la lèpre. Il n'est plus rendu pur. Une histoire qui s'est passée réellement, elle s'est expliquée, voilà le sens littéral. Alors Jésus apparut aux disciples une dernière fois, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, allez par le monde entier, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est le texte que tu viens de lire. Voilà ce qu'ils ont vécu. Sens littéral. Voilà ce qu'ils ont entendu. Sens littéral, pas compliqué ça, sens littéral. Bon, il faut commencer par lire le sens littéral. Le Concile Vatican II, qui est le concile, j'allais dire, où l'Esprit Saint parle pour notre temps, pour notre génération à nous. Le Concile Vatican II nous dit, ce qui est primordial dans la mendication de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est de lire le sens littéral. Donc, le Concile Vatican II dit, ne prenons pas en premier, surtout pas le sens symbolique. Si vous commencez par le sens symbolique, vous êtes foutu. C'est une image. Ah, mais ça, c'est une image. C'est une image. Et c'est parlant, parce que ça vous fait comprendre ce que vous êtes, hein, ce que vous avez à vivre. C'est une image, et elle est vivante pour vous, cette image. C'est une histoire de Moïse qui s'approche du puissant ardent. Voilà une image très symbolique. Parce que ça s'est passé réellement, on ne se pose même pas la question, on prend uniquement le symbole. Mais c'est un symbole vivant. Alors faites vivre ce symbole de manière qu'il soit parlant pour vous. Ça, tu vois, tu fabriques une image, tu lui donnes animation et tu la fais parler. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hein? Chapitre 13 de l'Apocalypse. La bête propose de construire une image. Ne faites pas. Attention, ce n'est pas le point de vue symbolique qui est premier, c'est le point de vue. Dieu s'adresse à nous dans la fin des temps. Jésus, Dieu s'adresse à nous de manière incarnée. Il a pris chair de la Vierge Marie. Et donc, le premier sens, c'est le sens littéral. Voilà. C'est extraordinaire, ça. Bon, mais seulement Jésus, évidemment, lorsque il fait ses gestes, qu'il parle, les prophètes, lorsqu'ils vivent dans la grâce prophétique, telle ou telle chose, bon, lorsque les apôtres eux-mêmes guérissent tel malade, et proclament telle chose, telle affirmation, frères, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, va et vient à la recherche de sa proie, cherchant qui dévorer, résistez-lui, fort dans la foi. Ah oui, mais attention, il y a quelque chose. Il y a une indication, pas seulement, il ne s'agit pas seulement de connaître ce qui a été dit, de savoir ce que Jésus a fait, de le connaître Jésus, il faut aussi savoir comprendre la leçon qu'il y a derrière. Les différentes leçons, il y a donc d'abord, à chaque passage, un sens moral. Un sens moral. Oui. Donc un sens moral. Un sens moral, ben voilà, il y a un sens moral. C'est pas compliqué. Le sens moral, ben voilà, c'est de comprendre qu'à travers ce texte que Jésus te donne à toi, eh bien, à travers ce texte, Dieu montre, montre quelle est ta finalité. C'est ça le sens moral. Et donc, il montre les meilleurs, les chemins les plus rapides pour accéder à ta plénitude, à ce pourquoi tu as été créé. C'est le sens moral. Il va y avoir un sens anagogique. Anagogique.
Alors, le sens analogique, ça, c'est le sens vertical. C'est que Dieu, à travers ses gestes, à travers sa révélation, se révèle lui-même dans toute sa transcendance. Et donc, il va y avoir une signification analogique. Par exemple, tandis que Jésus descendait de la montagne, venaient vers lui des foules innombrables. Tu vois, le sens analogique, c'est de regarder cette parole comme Dieu de son éternité l'aperçoit lorsqu'il se penche vers le temps. C'est le sens vertical. Or ici, tandis que Jésus descendait de la montagne, Dieu voit ça, évidemment que Dieu perçoit ça comme le mystère précisément de l'Annonciation à la Vierge Marie. Hein? Évidemment, il descend, j'allais dire, de la montagne, hein? Et viennent vers lui des foules innombrables. La Vierge Marie, hein, ses écluses sont pleinement ouvertes, hein, les foules innombrables. Quand la Vierge Marie est là, pas de problème. Jésus descend. C'est le mystère de l'incarnation, il n'y a pas de doute. Ça, c'est le sens vertical.
Anagogique, ça vient de quoi comme racine?
J'avoue mon ignorance sur ce.
Pédagogique, anagogique, démagogique.
Alors, j'en connais que
enseignement.
Oui, ça vient de agogé, parce que c'est comme synagogue, tu vois, agogé.
C'est l'enseignement, non?
Et il faudrait que. Ça fait longtemps que je voulais regarder ça, mais je reconnais que je n'ai pas. Vous avez enfin le sens. Le sens mystique, et puis vous pouvez mettre ici entre les deux un espèce de sens qui serait par ici, qui serait un sens historique. Mais vous comprenez qu'ici, ça c'est pas pour le croyant. Du moins, le croyant, il peut très bien voir en quelle mesure, j'allais dire, la Bible me donne des éléments de l'histoire. Ces éléments de l'histoire sont parfaitement exacts. Mais ce n'est pas ça qui va nourrir votre foi. Et au fond, ça va être réintégré dans le sens littéral. Mais voyez bien que ce n'est pas pour ça. Le sens littéral me nourrit, hein, le sens littéral nourrit ma foi. Vous allez pouvoir avoir aussi d'autres qui vont dire, mais non, il y a aussi le sens exégétique. Alors je le mets entre parenthèses parce que ça c'est l'application d'une méthode scientifique, positiviste. Hein. Je l'applique au texte de la Bible, je prends mes ciseaux et du coup je prouve, je prends une hypothèse, je dis voilà, je suppose que la Bible, je pars d'un a priori, je dis voilà, la Bible montre probablement que Jésus, par exemple, est devenu Dieu à la fin de sa vie comme Bouddha. Donc comme j'ai ça dans la tête comme a priori, je fais une hypothèse de départ, comme dans toutes les sciences, je fais une hypothèse, et du coup je découpe, je prends mes ciseaux, et je découpe toute ma Bible en montrant que c'est ça qui est dit. Dans tous les passages qui me gênent, je dis oh, qu'ils ont été rajoutés postérieurement, donc je change complètement tout. Et attention. Je tiens à vous dire qu'ici, ce sens-là dont je vous parle, vous avez 95% des prêtres qui sont formés à la Bible uniquement avec le sens exégétique, avec rien du tout là-dessus. Ce qui vous explique beaucoup de choses. Et donc, si vous avez allé à une conférence d'un prêtre qui dit « Moi, j'ai fait ma théologie, et mec, hein ?» Je dis « Attention, c'est de la théologie ou c'est de la positivismologie ?» Alors, montrez-moi vos pères ciseaux d'abord. Pour le croyant, les pères ciseaux, c'est quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. Bon. Donc, je laisse. Attention. C'est pour ça que je vais récupérer le sens exégétique dans le sens littéral pareil. L'exégèse, c'est tout simplement de regarder le texte et puis, ce que dit le texte. Comment le texte dit, au fond, ce que nous on croit, au fond. d'une certaine manière. Mais sans le corps, sans prendre des ciseaux en disant pop, pop, pop. D'accord ? Bon, il faudrait que je vous donne des exemples là, mais enfin faites attention donc. Hein. Ici, nous prenons donc le sens littéral, le sens moral, le sens agricole. Alors, c'est normal. Pardon ? Non, 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 non. Non.
Symbolique.
Oui, mais le sens symbolique, il est répercuté ici. Répercuté ici.
Parce que la dernière fois, vous nous l'avez fait avec cinq manières de.
Oui, mais le sens symbolique ici.
La parabole.
Comme les paraboles, par exemple, eh ben, il va être quelquefois utilisé dans la signification dans le sens moral et dans le sens mystique. Quelquefois aussi dans le sens analogique, ça c'est vrai.
Vous aviez pris l'exemple la dernière fois en disant « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». C'est-à-dire oui. Que le sens moral, que la lumière soit, c'est-à-dire par rapport à l'être humain, qu'il soit éclairé dans sa démarche pour poser des actes justes.
Oui, oui.
Le sens, vous aviez dit qu'il y avait un sens comme comment l'Ancien Testament éclairait le Nouveau Testament.
Oui.
Comment le nouveau, troisième sens, comment le Nouveau Testament éclairait la vie de, dans le ciel.
Oui, oui, oui.
Et puis il y avait le sens.
Le sens mystique.
Il y avait le sens mystique. Mais ça faisait
comment l'Esprit Saint peut se répandre dans les. En se faisant encore
mystique. Voilà. Et puis le sens littéral, c'était la lumière soit, la lumière.
Oui, oui. Alors donc pour l'instant, je décompose, puis on va prendre un exemple. J'avais pris effectivement dans la cassette au début de cette année que la lumière soit la lumière. Oui, parce qu'il y avait le sens métaphorique aussi.
C'est ça, voilà.
Hein, mais le sens métaphorique est récupéré dans le symbolique. Le sens métaphorique.
Donc en fait, il n'y en a que quatre. Il n'y a que quatre manières de lire.
Ben oui, par exemple, donc l'exemple est tout simple, c'est la première parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis il dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà l'exemple que je vous avais pris.
La première, que la lumière soit.
Que la première.
Que la lumière
oui.
soit.
Oui, oui. Alors, ça, c'est assez facile de comprendre que là, vous pouvez prendre la parole de Dieu et le lire d'abord, sens littéral. Sens littéral, c'est Dieu qui a créé, à partir de rien, la lumière qui actue le diaphane cosmique. C'est-à-dire, cette lumière qui fait que l'ensemble de l'univers cosmique. Eh ben, à une unité intérieure, un espèce de tissu invisible, justement, diaphane, c'est-à-dire où il n'y a rien dedans, si je puis dire, que cette lumière. Cette lumière, c'est-à-dire cette unité par la lumière créée par Dieu. C'est Dieu qui, à partir de rien, a constitué cette lumière, qui actue le diaphane intérieur du monde cosmique. Ça va ?
La lumière, la création du monde angélique, non, c'est encore possible.
Non, c'est le ciel et la terre. Dieu crée le ciel et la terre, le ciel, c'est ça. Bon, alors, sens littéral, Dieu a vraiment créé la lumière, qui a cru que j'avais un sens littéral. C'est à l'origine, à partir de rien, tu as créé la lumière. Il faut commencer par ça. Et oui, parce que c'est bien évident, parce que je vais rentrer dans les différents autres dons. Fécondité de la parole de Dieu, que si je rentre dans le point de vue littéral, Dieu crée la lumière, donc je peux l'adorer. Ah, à partir du moment où je l'adore, c'est spirituellement que je l'adore. Je peux recevoir déjà le sens moral. Et donc, mon cœur va se réveiller. Voilà. Hein? Alors là, tu avais dit, en effet, le sens moral, il va y avoir un sens prophétique aussi, si je puis dire. Enfin, il est là. Donc, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors tu dis, qu'est-ce que j'avais dit ?
Le sens moral, c'était que la lumière
soit. Je ne voudrais pas dire des choses différentes, hein. Si je me coupe.
Le sens moral, il me semble que c'était que la lumière de Dieu éclaire mon cœur humain.
Oui, ah ben ça sûrement. Alors, oui, que la lumière soit.
Dans mon cœur. Dans
la lumière de la grâce.
Voilà.
La lumière de la grâce qui finalise toute ma vie humaine.
Du
point de vue humain, je suis au sommet de l'adoration ici. Quand je touche le point de vue littéral de la création. Puis maintenant, l'épanouissement de ce point de vue humain, qui est quand même ma finalité, c'est la grâce. La vie divine en moi. Donc, point de vue moral. La lumière vivante de la grâce. Que la lumière soit. Ensuite, le sens anagogique, que la lumière soit. Ah, ben ça révèle bien sûr le point de vue de la procession éternelle du Verbe de Dieu dans la contemplation éternelle du Père. Ça, c'est sûr. Le Père, quand Dieu, il n'est pas là en disant il est infiniment, extraordinairement contemplatif. Il n'est pas inactif. il est bien sûr dans une impassibilité extraordinaire, puisqu'il a atteint sa perfection éternellement. Donc il ne peut rien surajouter à sa perfection, puisqu'il est infiniment parfait. Mais néanmoins, cette perfection implique une fécondité invraisemblable. Il est contemplatif. Donc sans arrêt, il engendre cette contemplation, que la lumière soit. La vie divine en Dieu, c'est une vision éternelle, une vision éternelle de lui-même, béatifiante. Que la lumière soit, sens anagogique. Bon, sens mystique, ah, c'est très bien, quelle est cette lumière? Comment est-ce que le Verbe de Dieu, qui est le fruit de la contemplation du Père, qui donne la grâce, qui est créateur du tout, va tout récapituler dans l'univers, dans le corps mystique de Jésus? Lecture mystique. Et à partir de la lecture mystique, je peux lire comment l'Esprit Saint se répand dans l'Église de Jésus, et puis faire aussi une lecture de théologie mystique, par exemple, de ce que la Vierge Marie vit dans la foi, l'espérance et la charité. Ce que je vous fais souvent. Souvent, je vous lis le dimanche après-midi, je vous ai lu l'Apocalypse, par exemple, il y a 2 ans, sur 15 mois de suite, en lisant ce que ça révélait dans le sens mystique marial. Donc, ce que ça révélait, la manière dont la Vierge Marie vivait dans son intelligence de femme de la foi, comment elle vivait dans son cœur de femme de l'espérance, comment elle vivait dans sa vie intérieure de la charité. Et ça, l'Apocalypse nous montre ça en clair. C'est extraordinaire de recevoir l'Apocalypse comme ça. Mais on aurait très bien pu faire une interprétation de l'Apocalypse autrement. Vous voyez ? Bon, mais ce qui est important, au fond, c'est de dire, alors oui, toi, par exemple, ton exemple, c'est très simple. Bon, ton exemple, tu as dit, voilà, ben, voici à quoi on reconnaîtra les croyants. Bon, ceux qui ont la foi. Eh bien, on les reconnaîtra parce que si un serpent est mort, il ne lui fera aucun mal. Bon, au sens littéral, dès que tu vois serpent dans la bouche de Jésus ressuscité, le sens littéral, serpent, c'est pas compliqué. Le sens littéral, c'est pas le serpent que tu vois dans les herbes. Hein. Le serpent, c'est Jésus ressuscité qui aurait dit ça. Donc il regarde le serpent. C'est le serpent de la révélation, quoi. C'est le sens littéral. Donc c'est le serpent du péché originel. Celui qui croit, serpent. La tâche, c'est ça qu'on se dira, moi je crois.
Alors faudrait un niveau en dessous alors.
Ah non, alors tu peux très bien dire, voilà, sans exégétique, mais non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Non, tu vois, si on te donne un poison, si on te donne un poison mortel, quel poison, eh bien il ne te fera aucun mal. Le poison mortel pour Jésus ressuscité, c'est le poison qui met la force. C'est le sens littéral ça.
Ah oui.
Non,
c'est pas évident, ça.
Non, c'est vrai, c'est c'est-à-dire que celui qui donne un poison mortel, par exemple, une erreur au point de vue humain, une erreur au niveau de la nature, au niveau philosophique, eh bien, ça ne t'atteindra pas. Si par exemple, on t'enseigne une erreur comme quoi tu as eu des vies antérieures. Comme quoi tu as eu des vies antérieures, c'est pas une erreur religieuse, c'est une erreur humaine ça. Si on te. Normalement, si tu as la foi, ça ne t'atteint pas, parce que la foi, c'est une lumière surnaturelle qui normalement te peut comprendre ça. Bon. Maintenant, au sens moral, bah, pareil, tu as des poisons qui risquent de mettre la mort, de t'empoisonner au point de vue de la grâce. Alors à ce moment-là, ce sera plus le péché. C'est le péché qui peut faire quitter la grâce sanctifiante. Il n'y a que le péché qui peut te... Bon, et puis donc le sens anagogique. Alors le sens anagogique, oui, alors le sens anagogique, c'est la grande lutte eschatologique entre les puissances de ténèbres et puis ensemble... C'est la grande lutte finale, je crois qu'on peut dire, on peut parler que là il y a quelque chose. Puis ensuite le sens mystique, eh bien, c'est de regarder comment tout ça se passe dans le cœur de celui qui est pris par les 7 dons du Saint-Esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 7 affirmations. Alors tu peux reconnaître les 7 dons du Saint-Esprit à travers ces 7 affirmations. Tu vois, t'as pas seulement le poison, t'as pas seulement le venin du serpent, t'as aussi la guérison des malades, le fait de parler en langue, le fait, etc. T'as 7 affirmations là. Donc tu peux reconnaître la manière dont l'Esprit Saint va fortifier l'intérieur du corps de l'homme et de son cœur et de sa vie spirituelle de l'intérieur, bon, manifester de cette manière-là sous forme métaphorique. Et donc, ton travail à toi, ce sera de faire une recherche, de supplier l'Esprit Saint de te comprendre, de faire comprendre quel est le sept, lequel des sept dons du Saint-Esprit qui est révélé à travers, par exemple, le symbolisme de la position des mains aux malades. Ça, c'est évidemment l'esprit d'intelligence. Je suppose que tu avais compris que d'imposer les mains aux malades, c'est l'esprit d'intelligence qui est supprimé, qui est derrière. Enfin, tu avais compris tout de suite. Parce que la grande maladie, l'esprit d'intelligence, oui, parce que la grande maladie, c'est ça. La grande maladie, c'est l'intelligence qui est malade. Bon. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder le tableau, tu vois. Là, tu verras ici le tableau à 7 colonnes, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez la transition. Tu regarderas esprit d'intelligence tout à fait au milieu de ton tableau. Esprit d'intelligence, tout à fait au milieu. Et tu vas regarder en principe le sacrement qui correspond, c'est le sacrement des malades.